Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, piller les classiques littéraires, vider leurs comptes en banque, les mettre à découvert. Vous écoutez Livres et Châtiments, l'émission qui laisse les classiques en slip. Pour tenir les comptes avec moi aujourd'hui, celle qui connaît le pouvoir de l'argent et celui des agents. Bonjour Constance.
Bonjour Clara, mon trésor.
Avec nous également, celle qui préfère brasser les mignons plutôt que les millions. Bonjour Liliane Roudière.
Bonjour Clara.
Et enfin, celle qui a longtemps cru que le CAC 40 était un pain à la farine semi-complète. Bonjour Élodie Emery.
C'est vrai. Bonjour Clara Dupont-Mono.
Le classique que nous allons dépouiller aujourd'hui, vous allez devoir le deviner un peu comme dans un jeu. Alors j'aurais pu choisir qui veut gagner des millions, mais comme vous le savez, j'ai un petit faible pour Question pour un champion qui, cela dit, promet quand même 50 000 euros de cagnotte à remporter. Ça, c'est dans leur émission, c'est pas dans la nôtre. Ici, vous gagnerez toute mon estime, hein, ça ne rembourse pas un PEL, mais ça élève. Êtes-vous prête? On y va. Je suis publiée en 1833. Mon titre se compose du prénom et du nom de mon héroïne. Et la première qui me répond, Thérèse Raquin, elle sort parce qu'on l'a traitée déjà il y a 15 jours. Mon héroïne donc habite la ville de Saumur. Son père est avare. Mon héroïne vit donc chichement, sans penser une seconde qu'elle est assise sur un tas d'or. Entre un père avare et une mère soumise, sa vie est aussi gaie qu'un dîner mormon un soir d'hiver. Il ne se passe rien. Sauf le jour où son cousin Charles arrive à Saumur. Mon héroïne tombe amoureuse de lui, bien sûr. Elle lui donne tout son argent de poche, ce qui met le père en fureur. En fait, mon héroïne résiste au père en utilisant ce qu'il a de plus cher, l'argent. Hélas, le cousin se marie avec une autre pour des raisons d'argent, again. Mon héroïne meurtrie s'étiole doucement, richissime mais indifférente à l'argent, le cœur pur mais vide. Je cite « Telle est l'histoire de cette femme qui n'est pas du monde au milieu du monde. Je suis donc un hommage magnifique à cette existence en demi-teinte, ruinée par l'argent et par l'amour. Je suis aussi un coup de griffe au père qui incarne cette société triste, issue de la révolution pour laquelle l'argent est le nouveau dieu. » Je suis.
Je crois que je l'ai.
Ok, je vais buzzer toute seule. Eugénie Grandet de Balzac.
Non, mais je vois qui c'est. C'est une copine à Thérèse Raquin.
Non, voilà. C'est ça.
Eugénie sans bouillir, Grandet à coudre.
Voilà.
Alors, il faut aimer les jeux de mots, sinon on passe un très mauvais moment.
Voilà.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Pour lancer une OPA sur Eugénie Grandet, nous avons avec nous ce dimanche le romancier Marc Duguin qui vient de réaliser le film Eugénie Grandet avec Joséphine Japy dans le rôle d'Eugénie et Olivier Gourmet dans celui du père Grandet. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Un peu minorité visible aujourd'hui, hein. Vous êtes
un
le
peu,
seul garçon.
Un peu.
C'est un très beau film que vous avez fait là, un film dont vous avez réécrit la fin. Nous en parlerons tout à l'heure, mais je reconnais là votre fond de sauce contestataire protestant breton. Alors dites-nous avant tout...
Ça démarre bien.
Mais pourquoi Eugénie Grandet, pourquoi est-ce qu'elle a les faveurs de votre cœur? Pourquoi Eugénie Grandet et pas moi?
Ah.
Voilà, non, je plaisante. Mais pourquoi Eugénie Grandet, Marc Duguin?
Bah, Eugénie Grandet parce que c'est un... D'abord, il faut aimer Balzac, et moi je l'adore depuis toujours... Et puis, c'est un livre d'une formidable modernité, en fait, sur à la fois ce dont vous avez déjà parlé, c'est-à-dire les rapports à l'argent. On est juste après la Révolution, et effectivement, le nouveau dieu, c'est l'argent. Et Grandet réussit magnifiquement en pillant les biens du clergé et de l'aristocratie. Et avec son propre travail aussi, et il rentre dans ce système qui aujourd'hui nous habite toujours, qui est celui d'une infinie cupidité.
Il y a donc des pères Grandet un peu partout.
Il y en a toujours, et en fait c'est intéressant parce qu'on est au tout début de ce système libéral dont le seul objectif est d'amasser toujours plus, ce qui relève un peu de la névrose obsessionnelle, on va dire, mais la psychanalyse n'existait pas encore du temps de Balzac, mais en tout cas il décrit très bien cette névrose qui est celle de Grandet, qui est à la fois avare, mais qui est pas l'avare d'Harpagon, qui est un avare qui en fait jouit de l'existence d'une fortune toujours plus grande et toujours plus massive. Et puis de l'autre côté, puisqu'on parlait de modernité, il y a ce rapport à la femme Et là, on est quand même au début du 19e siècle, et la condition de la femme est très éclairante quand on voit où on en est. C'est-à-dire que la femme est avant tout une reproductrice, une monnaie d'échange, qui permet encore d'agrandir avec les dots, par le mariage, la surface financière des hommes. Ce qui est très beau, je trouve, dans ce livre, c'est que les femmes ont une part très importante et les hommes sont ridicules. Et dans toute l'œuvre de Balzac, les hommes sont ridicules parce qu'ils sont toujours recroquevillés sur leurs petits arrangements. Et ça, c'est très intéressant.
Est-ce que vous nous liriez, du coup, votre passage préféré de Eugénie Grandet de Balzac, Marc Dugain ?
Alors, c'est un passage qui n'est pas dans... Enfin, qui est dans Eugénie Grandet, mais qui est surtout, en fait, dans l'épilogue de la première édition, enfin des premières éditions, en octobre 1833. Et là, Balzac parle... Donc il parle de l'auteur, c'est-à-dire de lui. S'il continue d'accorder, malgré les critiques, tant de perfection à la femme, il pense encore, lui, jeune, que la femme est l'être le plus parfait entre les créatures. Sortie la dernière des mains qui façonnaient les mondes, elle doit exprimer plus purement que tout autre la pensée divine.
Alors Balzac parle de lui à la troisième personne du singulier, c'est un peu le Alain Delon du début du 19e siècle.
Un peu, mais c'est beau ce qu'il dit.
Oui, c'est très beau, c'est très novateur aussi. Moi, ça me met un peu les frissons. Est-ce que je suis là? Oui, allez-y, Marc Dugain, si vous voulez poursuivre.
Aussi n'est-elle pas, ainsi que l'homme, prise dans le granit primordial, devenue molle argile sous les doigts de Dieu? Non, tirée des flancs de l'homme, matière souple et ductile, elle est une création transitoire entre l'homme et l'ange. C'est pas beau ça?
Ah si, merci Honoré, merci.
Honoré vous a honoré, mesdames.
Exactement. Est-ce que je suis la seule à m'émouvoir ou comment est-ce qu'on a ressenti Eugénie Grandet autour de cette table, Élodie Emery, qui fait une grimace, hein, le dis pour nos auditeurs.
Eh ben parce que moi justement cette association de la femme à cet être divin et toutes les qualités qui lui sont associées à ce titre, sa naïveté, sa pureté, m'ont laissé insensible, je dois le dire.
Liliane Roudière.
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime de toute façon ce siècle en général. Et même si je remarque les mêmes choses qu'Élodie, ben justement, je me dis, le temps a changé, c'est bien. Et j'ai aimé particulièrement votre film aussi, parce qu'en me disant, mais comment il va s'en sortir? Parce que, et vraiment, super. Voilà. J'ai tout aimé. Moi, j'aime tout.
Vous avez une fan, Marc Dugain. Et la Constance.
Moi, j'adore Balzac. Je suis hyper fan. J'avais des posters dans ma chambre quand j'étais petite. Je suis allée à tous les concerts. Et je suis vraiment une dingue de Balzac. Et vous, Clara?
D'accord. Et ben, moi, je l'ai lu en quatrième. J'avais 13 ans. Et ce fut une erreur très funeste, hein. On remerciera jamais assez l'éducation nationale de se tenir autant au courant de la sensibilité des préadolescents. Puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé une grandéite. C'est-à-dire une allergie à Eugénie Grandet. Parce que je n'ai rien compris. Que ce texte m'a, du coup, mise face à mon incompréhension et mon ignorance. Et puis, je l'ai relu pour Livre et Châtiment. Et là, ça a été un remède miracle à la grandéite. J'ai adoré Eugénie Grandet. Je l'ai trouvée bizarrement toute petite et très grande, Grandet, à la fois un peu pitoyable et en même temps héroïque. Et puis, je trouve aussi que ce qui est intéressant avec Eugénie Grandet, c'est qu'en fait, elle est littéralement saumurée. C'est-à-dire qu'on la met dans un bocal et on la conserve de façon économique pendant très 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 longtemps.
C'est vrai.
Je ne parle même pas de la langue de Balzac qui, à elle seule, est une leçon de vie, qui à elle seule vaudrait même une chronique, hein, puisque il y a Constance qui est là, Marc Dugain, et qui va nous disséquer la première phrase d'Eugénie Grandet de Balzac. C'est la dissection de la première phrase par Constance.
Il se trouve, dans certaines villes de province, des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Excusez-moi. Oula, je viens de vous lire par mégarde tout le premier chapitre. Quoi? Ah, c'est que la première phrase. Oh la vache, vous avez raison, je viens de voir le point à la fin de la phrase. Autant pour moi. Moi qui croyais que c'était juste ma mère qui était du genre à s'égarer dans les descriptions minutieuses et les détails détaillés quand elle racontait une histoire, bah du coup il y a Balzac aussi. Allez, donc, il se trouve dans certaines villes de province, par exemple Saumur ou Cuisy-la-Motte. Là, en l'occurrence, c'est plutôt Saumur, puisque bah, c'est Balzac qui a choisi, étant donné que c'est quand même son bouquin. Allez, on respecte. Des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres et les landes les plus ternes et les ruines les plus tristes. Allez, on prend un Lexomil, on s'accroche au bouquin.
parce que le père Grandet, c'est une pince doublée d'un salopard. Il fait vivre toute sa petite famille comme s'il avait pas un radis, alors qu'en fait, il est blindax, le bordel. Eh ouais, son truc à lui, c'est les culs. Mais les culs pas comme des SK, non, les culs comme Picsou, voilà. Donc, grosse ambiance de privation monacale chez les Grandet. Quand c'est la fiesta, pour vous donner une petite idée, on fait un feu. Ou alors, on a droit à un sucre dans le café, après avoir dégusté un succulent bouillon de corbeau. Miam, miam. C'est délicieux. Je reprendrai bien un petit peu du bec. Malheureuse, tu veux nous ruiner? Dans la baraque, il fait sombre et froid. Ça dîne à 17h. Les filles font de la couture dans la pénombre. Elles prient et discutent certainement avec des petites moisissures ou des tas de poussière parce qu'on s'éclate. Bonjour, petit tas de cendres. Je peux t'appeler Didier. Tu seras mon ami, Didier. Eugénie tombe amoureuse de son cousin, parisien ruiné. Elle lui donne toutes ses économies après lui avoir juste roulé un petit palo sous un arbre. Son cousin part faire du trafic d'êtres humains aux Indes et l'oublie très vite parce qu'il est bien occupé à mettre sa queue dans tous les bordels du monde. Elle l'attend toute sa vie dans la chasteté la plus complète en bouffant du pain sec. Son père la séquestre et fait crever sa mère. Puis son père crève et elle finit par épouser un type qu'elle n'aime pas, à condition de faire ceinture et crève lui aussi à son tour. Sinon, ça va, vous? Oui, voilà. Bah, écoutez, il y a Jean-Baptiste qui va certainement doubler la cinquième, et je me dis qu'à côté de tout ça, c'est pas si grave. Voilà, voilà. Résultat, derrière cette description du lieu de cette première phrase se cache déjà l'annonce du destin d'Eugénie. Et nous, lecteurs, avons envie de lui crier « Barre-toi, bichette! Profite de tes sous-sous et oublie ton premier amour !» Je dis ça parce que moi, Kevin de la Baule, à qui j'ai roulé trois pelles en 99, je l'ai retrouvé sur Facebook, et ben, il roule en BX avec des ailerons.
Merci Constance. Alors, Marc Duguin, on entend.
Oui.
Restez avec nous, Marc Duguin.
Mais je suis là.
C'est vrai qu'on a entendu dans cette première phrase l'importance du lieu chez Balzac. La ville, la rue, la maison. La maison, elle est décrite comme pâle, froide et silencieuse, en fait à l'image de la famille Grandet. Quand vous avez dû adapter Eugénie Grandet au cinéma, aviez-vous en tête cette importance du lieu?
Ah bah c'est ce que j'ai dit à la chef d'écho, pâle, froide et tout en suivant, parce que c'est essentiel le lieu, parce que c'est un lieu d'enfermement. Donc j'ai fait en sorte, alors c'était pas simple, parce que moi j'aime pas travailler en studio. Donc faire reconstituer la maison de Grandet en studio, je sais pas, il y a un truc après. Mais moi, j'arriverais pas à y croire en fait. Donc ce qu'on a, on a trouvé les vieux communs d'un château et là-dedans on a construit à l'intérieur la maison Grandet. Bon, le seul problème c'est que les vieux communs étaient le long de la francilienne. Donc il y avait un petit rappel de la modernité, mais ça s'efface très bien maintenant avec le digital. Donc on a tourné avec un peu des bruits de voiture, des bruits de camions, mais on était en tout cas dans des lieux qui s'est prêté. C'est vrai que ça suinte en fait. Ce décor, il est sinistre. Il y a pas d'autre mot. Mais en même temps, il parle de l'ennui et évidemment l'enjeu c'est que le spectateur lui ne s'ennuie pas. Tout le problème est là.
Alors on peut voir aussi Eugénie Grandet comme la riche héritière d'un empire financier, plutôt mignonne, émotionnellement fragile, que tous les gars essaient de choper pour gagner le pactole. J'ai l'air de rien, je viens de résumer le personnage de Kelly Capwell dans Santa Barbara. Ah bah oui, pardon d'avoir un peu de culture. Donc Eugénie Kelly, cela m'amène naturellement au prénom, car nous avons ici une personne qui lit les classiques en se focalisant sur les prénoms des personnages. Un prénom, un destin, c'est Élodie Emery.
Vous attendez un heureux événement? Vous n'avez aucune inspiration s'agissant du prénom à lui donner? Pas de panique, les grands classiques de la littérature sont là pour vous donner des idées à la fois chic et choc. Dans Eugénie Grandet, le père Grandet s'appelle Félix. Pas mal, sauf que le prénom n'apparaît qu'une seule fois au cours du roman, donc personne ne comprendra que vous êtes inspiré de Balzac, donc ça n'a aucun intérêt. L'un des prétendants de génie s'appelle Adolphe. Mauvais pari, à mon avis. Et sinon, vous avez Charles, l'amoureux de génie. Ah, ce qu'il y a de bien avec Charles, c'est que vous pouvez vous revendiquer à la fois de Charles Grandet et de Charles Bovary. Ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Charles Grandet est jeune, il est beau. La servante dit de lui qu'il est moutonné comme une fille. Moutonné, ça veut dire frisé. Exemple, je me suis fait moutonner les cheveux, qu'en penses-tu? Mais revenons à nos moutons. Facile, pardon. Oh, Louis, bon, facile. Le prénom Charles. Donc Charles Grandet a tout pour lui, mais vers la fin du livre patatras, il tourne mal. Balzac nous dit « Il vendit des Chinois, des nègres, des nids d'hirondelles, des enfants, des artistes. Bref, c'est une crevure. Avez-vous vraiment envie que votre enfant marche dans ses pas ? Pas sûr. » Alors que Charles Bovary, qu'on a présenté comme idiot et cocu, est surtout gentil et amoureux de sa femme. Mais c'est vous qui voyez. Si c'est une petite fille que vous attendez, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Eugénie, personnage éponyme. Alors le prénom est tiré du grec Eugénios, qui signifie bien-né. Ce qui, s'agissant d'une fille persécutée par son père et abandonnée par un copain esclavagiste, est un peu poussif. Sacré Balzac. Mais ça sonne bien Eugénie. Pensez à tous les jeux de mots sympas que vous pourrez faire. Eugénie de la Bastille, Eugénie de la Lampe. Et en plus, c'est original. Au début du XXe siècle, Eugénie était dans le top 50 des prénoms les plus donnés, mais maintenant plus du tout. En 2020, seules 82 petites filles ont été appelées comme ça. Alors, est-ce que les parents ont voulu rendre hommage à Eugénie Grandet ou bien à Eugénie Bastier, la journaliste fâchée contre le féminisme, l'antrisme, le multiculturalisme et tout plein de ismes? Eh bien, c'est l'INSEE qui nous donne la réponse. Figurez-vous que hors Paris, le département où le prénom est statistiquement le plus donné, c'est le Maine-et-Loire.
Oh.
C'est-à-dire Saumur, là où se déroule le roman. Coïncidence? Je ne crois pas. Maine-et-Loire, terre de littérature. Mais la vraie bonne idée, celle que je vous livre sans plus attendre, c'est le prénom Nanon, encore plus original puisqu'il ne figure même pas dans les statistiques de l'INSEE. Nanon, c'est la servante de la famille Grandet et c'est la seule dans cette histoire qui s'en tire aussi brillamment. D'abord, elle a une santé indestructible, ensuite tout le monde l'adore et surtout, elle touche le pactole à la fin. On rappelle que Eugénie est richissime, sauf qu'elle s'en fout des thunes puisqu'elle, ce qu'elle veut, c'est son esclavagiste sexy. Du coup, elle donne beaucoup d'argent à sa servante Nanon, la seule personne qui l'aime, laquelle se marie, passons donc, je cite, de l'état de fille à celui de femme, et embauche une femme de chambre et une cuisinière. Alors qu'au début du livre, elle dort au fond d'un couloir dans un bouge sans lumière. Ascension fulgurante, personnage ultra feng shui. Amis lecteurs, amis auditeurs, n'hésitez plus.
Merci Elodie Emery. Marc Duguin, la servante Nanon, elle est jouée dans votre film par Nathalie
Bécu.
Elle a un rôle considérable. Comment définiriez-vous le rôle de Nanon dans Eugénie Grandet de Balzac?
Ben Nanon, elle est dans une position d'esclave, ni plus ni moins, puisque elle est complètement soumise à cette famille. Alors il y a un rapport un peu de respect de Grandet vis-à-vis d'elle, parce qu'en fait, ils ont la même origine sociale. Donc ça, au moins Grandet, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Il y a une forme de respect pour elle. Il leur arrive de plaisanter. Il y a un peu de confidence parfois, certainement. Mais globalement, elle est quand même totalement asservie à cette famille. Et effectivement, il n'y a que la mort de Grandet qui va la libérer, exactement comme la mort de Grandet va libérer sa fille.
Elle passerait dans le feu pour eux.
Elle est très dévouée.
Elle est très,
totalement
très dévouée.
Dévouée.
Elle est très dévouée. Mais là, c'est plus de la dévotion, c'est quand même une forme d'esclavage, d'esclavagisme.
Enfin, c'est... comportement un peu de labrador.
Intervention de Constance. Voilà.
Moi, j'ai ressenti comme ça.
L'ami des bêtes.
I need a dollar.
Allo et Black, I need a dollar.
France Inter. Livre et châtiment.
Eugénie Grandet n'a jamais grandi. Mais Eugénie Grandet a dit: je suis assise à la fenêtre. J'ai passé ma vie à faire des rideaux.
Tu lui as donné ton or? Je lui ai donné bien plus que cela.
Louise Bourgeois, en 1996, suivie d'un extrait du film Eugénie Grandet de Marc Duguin. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui vous promet le paradis fiscal, quand même bien plus intéressant que le paradis artificiel. L'objet de notre spéculation ce dimanche, c'est Eugénie Grandet de Balzac, l'histoire d'une femme de province dont la vie a été confisquée par un père avare et un amour déçu, et c'est l'argent le responsable de la folie du père et de la trahison amoureuse. Comme n'importe quelle équipe de traders, je suis accompagnée de mon requin de la finance, même si on est plus du côté de la Raymonta que du grand requin blanc, c'est Constance. Et avec nous, Constance.
Oui, je sens que c'est le champ lexical des poissons. Ok, alors je vais m'aligner. Donc il y a Liliane Roudière, notre poulpe à réaction. Il y a Elodie Emery, notre lotte colorée. Et Marc Duguin, notre coquille Saint-Jacques.
Ben, gardez donc vos branchies ouvertes, Constance. Votre truc à vous, c'est d'imaginer la bande-annonce du livre Eugénie Grandet de Balzac.
Les productions Balzac présentent Eugénie Grandet, un roman froid et humide sur la radinerie, la pingrerie et les conséquences des hérissons dans les popoches.
Papa, pourrions-nous faire un feu pour fêter la nouvelle année? Mes crottes de nez sont chiffrées ce matin de novembre.
Hélas, ma pauvre Eugénie, je travaille sans cesse et je gagne à peine de quoi nourrir ma famille. Oh, aïe, un lingot sur un doigt de pied, ça nique.
Eugénie Grandet, une histoire d'embrouille, de pognon en famille qui excitera les comptables et les notaires.
Soit une rente indexée sur le cours de l'or, compte tenu des fluctuations conjoncturelles et après déduction des taxes douanières, nonobstant l'usufruit de la nue propriété à l'aune de mon doigt mouillé, et par ici la monnaie. Vous êtes riche, monsieur Grandet. Votre fille ressemble à un poney, mais mon fils voudrait bien l'épouser. Par pur amour, un petit peu comme Laetitia avec Johnny.
Eugénie Grandet, c'est aussi une histoire d'amour intense et torride entre Eugénie la provinciale et Charles, son cousin parisien ruiné.
Oh, mon cousin, je vous aime. Vous êtes un petit peu habillé comme une gonzesse, mais je vous aime quand même. Tenez, j'ai cassé mon PEL à la caisse d'épargne et c'est tout pour vous.
Oh, merci. Tenez, ma cousine, voici le portrait de ma mère. Je vous aime aussi, mais je pars aux Indes dans l'Erasmus pour vendre des gens et baiser des esclaves. Attendez-moi, je reviendrai, c'est promis. J'ai pas dit Jacques a dit, je ne reviendrai jamais pour l'épouser cette cutéreuse. Papa, papa, j'ai donné tous mes sous à mon cousin pour l'aider. Aïe.
Eugénie Grandet, un roman qui prend le temps de bien démontrer qu'être femme au 19e siècle, c'était bien naze et que l'avarice est vraiment une plaie.
Oh, m'en parlez pas, moi j'ai une grand-tante qui est sujette aux varices, elle souffre énormément, puis c'est disgracieux sur les jambes.
Merci Constance, Marc Duguin, pour votre prochain film et votre bande-annonce, vous penserez à Constance.
C'est une autre version, mais ça mérite d'être étudié.
Non mais je vous voyais...
Pour une reprise en série, plus détendue.
Je vous voyais vous tendre de rire quand même, assez étonné, mais quand même. Alors dans cette émission, bah, vous l'avez remarqué Marc Duguin, on s'interdit assez peu de choses, et certainement pas de poser des questions, mais alors attention, hein, pas des questions de dossier de presse, hein. Non. Des questions qui fâchent, des questions qui tâchent, les questions de Liliane Roudière.
Alors je ris encore, mais j'entends depuis le début de cette émission que Monsieur Grandet est un avare, un égoïste, un brutal, ceci, cela. Mais Marc Duguin, pardon, il sent la naissance du capitalisme, se roule dedans, c'est l'ancêtre du trader. Il réussit une ascension sociale fulgurante, il n'est pas bling-bling, il aurait pu s'acheter un yacht, mais... il cultive la discrétion. Il ne veut pas d'un mariage arrangé pour sa fille et il économise sur le sucre et le gras parce que c'est mauvais pour la santé. Donc, je vous pose la question. Il n'est pas du tout nouveau riche, il est visionnaire, il est opiniâtre, il est protecteur. Et si Eugénie avait la chance d'avoir ce père?
Bonne question. Présenté comme ça, finalement. Finalement, on peut se dire, il avait des qualités. Après, moi, c'est pas le genre de qualité qui m'émeuve beaucoup, mais non, moi, je trouve que c'est un personnage odieux. Mais ce que j'ai aimé, ce qui m'a convaincu de faire le film, c'est que je trouve que son avarice, sa cupidité, tout ça, finalement, ça sert Eugénie. En tout cas, avec la fin que j'ai réalisée. C'est-à-dire que, sans le vouloir, il la libère, d'une certaine façon. Et c'est bien, parce que s'il n'avait pas été avare, il aurait payé la dot. Donc, elle aurait été mariée, elle aurait eu une vie épouvantable, à Saumur. Et là, quand son père meurt, en tout cas, dans le film, elle n'a plus aucune obligation. Donc, c'est un retour à une liberté qu'elle ne connaissait même pas.
Autrement dit, c'est l'obstacle qu'il incarne qui a offert la liberté à Eugénie Grandet.
Au bout de 33 ans, quand même.
Oui, ça a été long, mais ça a fini par arriver.
Alors, Marc Duguin est là, je ne vous l'apprends pas. Il arrive que les meilleurs fassent des erreurs, hein. Regardez Jérôme Kerviel. Parfois, les mots d'Honoré de Balzac ratent leur cible et ne touchent pas le cœur de certaines chroniqueuses. Élodie Emery assume la chronique qu'elle s'apprête à prononcer. Elle assume et elle signe ce blanchiment de page. C'est le passage qu'on peut sauter dans Eugénie Grandet.
Alors elle assume. En tout cas, elle se lance. S'agissant d'Eugénie Grandet, je fais une proposition radicale qui consiste à sauter les 262 premières pages. Alors vous me direz, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il en reste 36. C'est bien 36, ça se lit en un trajet d'autobus. Et c'est le moment où Eugénie prend un peu d'épaisseur, parce que pardon, mais avant ça, et il n'y a rien à en tirer. Les qualités que Balzac lui prête se limitent à sa nature angélique et au fait qu'elle est matinale, comme toutes les filles de province. Elle est aussi totalement bigote et à moitié crétine, c'est pas moi qui le dis. Je cite, Eugénie et sa mère n'estimaient les choses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles idées. Ou plus loin, ce compliment étreignit le cœur d'Eugénie et le fit palpiter de joie, quoiqu'elle n'y comprît rien. Balzac nous étouffe de clichés misogynes, la pitié féminine, la douceur angélique, l'innocente attitude, la vie vertueuse. Eugénie bat des mains comme un enfant, n'en jetez plus. Quand je pense à tout ce que cette pauvre Emma Bovary s'est pris dans la figure, trop cruche, trop romantique, incapable d'apprendre de ses erreurs, alors qu'elle a quand même un peu plus de panache, Emma, avec ses manteaux et ses écharpes en mérinos, pendant que Eugénie reprise ses bas à la lueur d'une mauvaise chandelle, et surtout quand Emma Bovary s'ennuie à crever au fond de sa chambre, elle a quand même des souvenirs un peu substantiels à revisiter. Elle a couché, elle a joui, Emma, et pas qu'une fois, alors que le grand amour de Eugénie Grandet, c'est un homme entrevu pendant quelques jours et deux baisers qualifiés de furtifs. Elle se fait maltraiter continuellement, Eugénie, elle ne se rébelle jamais. Elle dit à son père qui l'enferme et la plume comme un poulet « Que vous êtes bon !» C'est insupportable, on a envie de la secouer, Eugénie, on a envie de secouer Balzac aussi, qui nous explique que baisser la tête et souffrir en silence, c'est ça, je cite, « l'amour vrai, l'amour des anges ». Sauf dans les 36 dernières pages. Le père Grandet meurt enfin. Eugénie se prend une énorme poutre en recevant la lettre de Charles qui qualifie leur amourette d'enfantillage. Et c'est à ce prix-là qu'elle devient plus stratège. Elle se marie avec un des crétins qui la courtise pour son argent, tout en négociant de la laisser libre, c'est-à-dire de ne pas la forcer à lui faire des enfants. Alors là, oui, là, on est face à un acte révolutionnaire. L'équivalent, aujourd'hui, ce serait une ligature des trompes. Un truc encore tellement subversif en 2021 que beaucoup de médecins refusent de le faire. Autrement dit, si Balzac avait écrit un volume 2 de la vie d'Eugénie Grandet, à partir de ses 33 ans, on aurait peut-être eu affaire à une toute autre femme.
Intéressante lecture, Marc Duguin. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de chef-d'œuvre de Eugénie Grandet, mais il y a plein de gens qui ont dit que ce n'était pas du tout un chef-d'œuvre. Gide, par exemple, a trouvé ça absolument nul. Sainte-Beuve, qui était une critique bien connue à l'époque, dit « Balzac n'est pas passé loin du chef-d'œuvre », ce qui voulait dire dans sa bouche, enfin dans sa plume, qu'il était passé très loin du chef-d'œuvre. Et c'est vrai qu'il y a des moments, si on le lit avec les yeux d'aujourd'hui, c'est très nunuche.
Alors sauf que vous avez fait quelque chose, Marc Duguin, vous avez complètement changé la fin dans votre film. Et face à un prétendant dont elle ne veut pas, Eugénie Grandet lui met ça dans les gencives.
J'ai appris d'expérience que la solitude pour une femme vaut mieux que la compagnie d'un homme auquel elle n'est liée par aucun sentiment, mais par les seules convenances. Je ne serai ni votre chose, ni votre hochet, ni votre animal de compagnie.
Et vlan, ça dépote quand même. Vous en avez fait une frondeuse de Eugénie Grandet.
Ah ben, il fallait bien. Sinon, effectivement, vous avez raison. Le personnage est quand même...
Oui, vous l'avez dénunuchisé.
J'ai un peu
sacrément dénunuchisé.
Je l'ai dénunuchisé, ce qui est un terme que je vais proposer à l'Académie française, dans laquelle je ne suis pas, je ne serai jamais, vous le savez
je
bien.
Je vous le cède.
Mais non, c'est vrai, mais après, c'est toujours compliqué parce que on regarde les choses avec nos yeux, et c'est vrai que même la langue de Balzac, puisqu'on parle de donner envie aux jeunes de lire, il y a des moments c'est trop. C'est beaucoup trop. Et même le langage de l'époque, il est tellement riche que par moments, il a l'air un peu fastidieux, prétentieux. Donc je crois que c'est un peu pour ça que j'ai fait le film aussi. C'est pour ramener ce qui me paraissait bien dans le livre. Mais moi, je suis pas, très honnêtement, je peux le dire, je suis pas un inconditionnel du livre. Je suis assez d'accord avec vous sur ce que vous avez
dit. Non, ça me fait plaisir. Moi qui arrive tremblante.
Non, mais c'est vrai. À la fois, il a ce côté magnifiant les femmes, mais en même temps, il le fait d'une façon qui, avec le regard d'aujourd'hui, est très misogyne.
Oui, on leur prétend des qualités qui sont,
c'est ridicule.
À mes yeux, misogynes, effectivement.
Oui, mais c'est vrai, c'est un peu ridicule.
Mais est-ce que c'est pas important aussi que ce soit un témoignage de la condition de la femme à l'époque? Parce que nous, on voit ça avec notre œil, mais à l'époque, ça se passait vraiment comme ça, certainement.
Oui, ça se passait comme ça. Mais après, quand on fait un film, il faut prendre une distance. Parce que sinon, si c'est pour faire le film exactement comme est le livre, on est sûr de... Enfin, ça n'a aucun intérêt, puisque Balzac sera toujours plus fort que moi, de toute façon. Donc, si on fait le film, c'est qu'on a trouvé un angle, une façon de s'approprier cette histoire et de la rendre accessible aujourd'hui, et de la rendre moderne, sans tomber non plus dans la démagogie d'une extrême modernité, c'est pas la question, mais c'est voilà, d'arriver à faire quelque chose de cohérent.
En fait, vous avez fait avec le film ce que nous on fait avec les classiques, chaque dimanche, on secoue.
Exactement.
Orléans de la femme.
France Inter. Livre et châtiment.
Qui savait ?
Quoi, mon ami ?
Que Génie a échangé son or contre le portrait de la mère de Charles. Qui savait ?
Je n'en savais rien, sinon je l'en aurais empêché.
Elle est consignée dans sa chambre au pain, à l'eau et sans feu. Je ne lui pardonnerai jamais. Elle est de la branche faible des Grandet, ou alors c'est qu'elle tient de toi. Comment ai-je pu engendrer une progéniture aussi déshonorante? Elle ne respecte pas l'argent. Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur.
Ouf, la punchline. La punchline du père Grandet, incarné par Olivier Gourmet dans le film Eugénie Grandet de Marc Duguin. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission née avec un livre en argent dans la bouche, ce qui ne l'empêche pas de déshériter les classiques littéraires. Et ce dimanche, nous plumons Eugénie Grandet de Balzac, l'histoire d'une jeune fille dont la vie ressemble à un agio géant, écrasé entre un père gripsou et un amour déçu. Notre invité, c'est Marc Duguin, qui vient de réaliser le film. Et pour compléter cette étude de notariat, à 700 euros de l'heure, je suis avec mon clerc de notaire, Constance. Et avec nous, Constance.
Oh, j'aime être quelqu'un de sérieux. Il y a Liliane Roudière, Élodie Emery et Marc Duguin.
Nous parlons de Eugénie Grandet depuis presque une heure. Il serait peut-être temps de l'entendre, en vrai. Et où pourrait-on la trouver? Mais dans une agence bancaire, par exemple au Crédit Agrimol, devant sa gestionnaire de compte. Allons-y de ce pas. Mais pourquoi c'est tout noir ici? Mais qui a éteint la lumière dans mon bureau? Bon, je vais rallumer. Ah, mais c'est vous, mademoiselle Grandet, vous m'avez fait peur.
Papa dit qu'il faut éteindre la lumière pour faire des économies.
D'accord, mais... Oulala, mais vous êtes toute seule!
La dame de l'accueil m'a donné un café gratuitement, mais dans le noir, j'ai raté ma bouche. Et maintenant, j'en ai plein ma robe. Ma robe d'automne, en plus. Il va falloir que je tienne jusqu'en décembre avec.
Ok, bon, alors, d'ailleurs, en parlant d'économies, regardons les vôtres. Alors... Ah oui, votre PEL, c'est pas le Pérou, hein. J'ai peut-être une idée. Vous avez vu Le Loup de Wall Street?
Le Loup, oui. Wall Street, non.
Bon, en gros, j'investis dans des placements financiers en détournant, enfin, en utilisant habilement l'argent de votre père et on récupère le pactole. Je dis on, hein, parce que je me sucre un peu, au passage.
Papa dit que le sucre, ça coûte cher et on n'en a pas besoin. Oh. Mais dites, je fais quoi, moi, avec tout cet argent? Je peux acheter l'amour de Charles?
Ah bah, vu le bonhomme, oui, c'est une option.
Sinon, Nanon m'avait parlé d'un placement à 0,5%.
Non, mais d'accord, Eugénie, mais vous voulez pas avoir plus loin, hein? Vous pouvez devenir riche, là. Non, mais attendez, vous pouvez aussi rallumer la lumière. Merci.
Papa dit qu'on n'en a pas besoin. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir. Riche, vous comprenez, c'est pas mon truc. Ma fortune à moi, c'est un regard de Charles, la bonne santé de ma mère.
Oui, bah pour l'instant, vous n'avez ni l'un ni l'autre, hein. Donc je sais pas moi, investissez dans SpaceX, dans l'industrie du sucre, dans EDF, tiens, ça vous changera. Le choix est large.
Je vais demander à papa.
Voilà, légère petite fausse interview de Eugénie Grandet. Alors, Eugénie Constance a parlé du loup, Marc Duguin. Dans le livre de Balzac, Eugénie, elle frôle à peine les mains de Charles, son cousin, qui lui frôle à peine le sein. Dans votre film, c'est un peu plus chaud, il...
Un peu plus hard.
Conclut. Eh ben, pourquoi est-ce que c'était important de faire dévirginiser Eugénie?
Parce qu'elle allait plus loin, il y avait un engagement qui était plus fort. Ça scellait cette relation, alors que dans le livre, la relation, elle est amoureuse de l'amour et elle continue. Elle est dans une sorte de délire de cette fille enfermée qui est, et dans le film, ça prend cher. Donc c'était plus intéressant de faire comme ça.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a tout un registre un peu ambigu entre le parallèle entre l'argent et l'érotisme? On dit mon trésor, justement.
Bah, c'est surtout chez le père Grandet qu'il y a cet érotisme du... surtout dans le livre. Moi, j'ai pas trop insisté sur le côté gripsou, le côté avare. Déjà, on a Harpagon de Molière, qui est déjà assez copieux sur le sujet. Et je trouvais que là, c'était pas très intéressant de revenir là-dessus. C'est plus la cupidité que l'avarice. Et en tout cas, quand on relit le livre, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de très sensuel dans son rapport à l'argent, parce qu'il compte son magot, il est là, il est tout heureux. Mais ça, je trouvais que dans le film, ça marchait pas. Donc j'ai enlevé. Voilà. Il faut faire des coupures franches, assumées. Déterminé.
Marc Duguin, le frondeur. Votez Marc Duguin. Alors, vous le savez, Marc Duguin, dans un film ou dans un livre d'ailleurs, il y a des personnages secondaires qui sont essentiels. C'est un peu l'équivalent de la petite note en bas de page sur un contrat de livret A. Ça a l'air de rien, mais c'est décisif. Focus sur un personnage secondaire d'Eugénie Grandet par Liliane Roudière.
Aujourd'hui, je nomme Madame Grandet personnage secondaire essentiel, car elle incarne la part des femmes dans la lutte contre le patriarcat. Madame Grandet est un pur produit du 19e siècle, réputé le plus dur envers les femmes. Elle se fonde dans le Code Napoléon de 1804 qui institue la puissance paternelle, réduisant la femme à un statut de mineure. Madame Grandet, ça lui va. Elle est la propriété de son mari. Elle barbote dans la servitude volontaire. Elle est à la soumission ce que les adjos sont au découvert. Ça va de pair. Madame Grandet aime sa fille, mais elle l'éduque selon les règles qu'elle a reçues. Si Eugénie a des velléités de changement, elle lui rabat mollement le caquet par « c'est ton père qui décide ». Tu dois faire confiance à ton père. Oh tiens Eugénie, si on allait à l'église. Elle transmet ainsi le néant de sa vie intérieure à sa fille. Elle passe leur journée à repetasser le linge devant la fenêtre de la cuisine. L'hiver, gros changement, c'est devant la cheminée. Elle se distrait d'une charrette qui verse ou d'une promenade dans la nature. Mais pas trop souvent, je cite. Sortant peu du logis, elles usaient peu de souliers. C'est pas bête.
C'est sûr.
Madame Grandet, dans cette première partie du livre de Balzac, montre que les traditions nauséabondes se perpétuent aussi souvent par les femmes. Mais les années passant, les hormones se déploient dans le corps de sa fille. Et quand le cousin Charles débarque, là, c'est la mise à feu de génie. Ça pétarade dans la seconde. Une autre Madame Grandet apparaît alors. Elle recueille avec tendresse les confidences amoureuses de sa fille. Surgit entre elles une union sacrée. Madame Grandet va jusqu'à pécher. Elle cache à son mari que leur fille a donné tout son or à Charles. Quand Monsieur Grandet s'en aperçoit, sa colère est telle qu'il enferme sa fille et ça, la mère ne va pas le supporter. Du fond de son être déferle une vague d'amour maternel qui balaie toute soumission au mari. Elle se révolte enfin, défend sa fille contre le père, même si elle doit en mourir. Par son sacrifice, Madame Grandet indique à Eugénie la voie de la libération. Ce que l'auteur montre ici, c'est que la lutte contre le patriarcat passe toujours par les mères, par les femmes. Je ne vois pas de sexisme chez Balzac. Les seules opposantes à la tyrannie du père Grandet, ce sont les femmes qui le payent de leur vie. Dans votre film, Marc Duguin, en changeant la fin du livre, vous confirmez la vision de Balzac, mais vous allez plus loin. Vous nous laissez avec une Eugénie battante, vidée de sa mièvrerie, pleine de son libre arbitre. Vous l'émancipez, vous l'élevez. Et de cette embellie, je vous remercie.
Liliane Roudière. Et en effet, voilà ce que flaire la mère, jouée par Valérie Bonneton, dans votre film, Marc Duguin.
Tous les hommes ont des vices, ma fille. De tous ces vices, ton père a choisi celui qui coûte le moins cher. L'avarice. Cette avarice lui mange l'esprit. Elle corrompt son jugement. Elle ne te méprend pas. La vraie raison n'est pas là. Il te veut pour lui. Pour lui seul. L'exclusion de toute autre personne, moi y compris.
Ça, c'est votre interprétation très intéressante d'Eugénie Grandet, Marc Duguin. C'est donc que le père Grandet oppresse sa fille, mais pour la garder avec lui, dans un lien quasi incestueux, en fait.
Alors, ça a été la grande discussion qu'on a eue avec Olivier Gourmet, quand on a fait la lecture du scénario ensemble, qu'on préparait le film. C'était sur ce caractère incestueux ou incestuel, enfin, selon la façon dont on le voit. Et je pense que ça va pas jusque-là. C'est-à-dire que c'est pas, il est pas dans le désir de sa fille. Il est, et c'est encore plus terrifiant, entre guillemets, au sens où elle lui appartient totalement. C'est sa chose au même titre que les biens mobiliers, les biens immobiliers. C'est-à-dire qu'il lui enlève finalement toute capacité humaine. C'est là-dessus qu'on a discuté avec Olivier Gourmet. Je pense que ça serait une interprétation un peu faussée si on allait jusque sur la question du désir vis-à-vis de sa fille. Parce que je crois que la question n'est pas là. La question, c'est que tout lui appartient, tout le monde lui appartient. Et ça, c'est une vraie névrose quand même.
Drag a chair over to the window, and I
Street de Courtney Barnett.
Ma fille, monsieur, rendez-moi ma fille.
Non. Non, madame. Je ne paie rien contre pareille déception. J'aurais eu d'autres enfants. En reportant mon affection sur eux, j'aurais pu dissiper ma colère. Mais elle est ma seule fille. Dût-elle mourir et vous aussi, je ne pardonnerai rien.
Non, on dirait mon banquier. Un extrait d'Eugénie Grandet de Marc Duguin. Vous écoutez Livre et Châtiment qui détourne Eugénie Grandet de Balzac comme on détourne un fourgon blindé avec beaucoup de précision. Alors comme toute levée de fond, Eugénie Grandet de Balzac a une fin. Et je vous lis la dernière phrase. Ni la grande Nanon, ni Cornoyer n'ont assez d'esprit pour comprendre les corruptions du monde. Cornoyer étant le mari de Nanon. Alors personnellement, moi, cette dernière phrase, je la trouve un petit peu décevante, un petit peu compliquée. J'aurais pas dit non à une fin sur Eugénie. Je trouve qu'elle pouvait clôturer le bal. Mais justement, chers auditeurs, nous vous proposons de réécrire la fin. Comme Marc Duguin a fait avec son film, faites une duguenade, réécrivez la fin. Alors attention, 5 lignes maximum, avec la direction que vous voulez. Vous pouvez imaginer que Eugénie Grandet séquestre son père, quitte la maison, devient call girl, retrouve Charles, tout est permis. Et vous nous envoyez cette nouvelle fin à l'adresse livre-et-châtiment@radiofrance.com. Au singulier, toute attachée, la meilleure fin sera lue à l'antenne dimanche prochain par Constance.
Youpi !
La semaine dernière, c'était l'amant de Marguerite Duras dont vous deviez réécrire la fin. Rappel, le livre s'achevait sur un coup de téléphone de l'amant, des années plus tard, alors que la narratrice n'est plus du tout une jeune fille, l'amant lui promettant à nouveau l'amour éternel. Eh bien dites donc, ça a attisé votre imagination. Vous avez été plus cruel que ne l'est le livre, plus imaginatif aussi, plus corrosif. Ça a été difficile de vous départager, mais Constance l'a fait avec amour et sans pitié. Résultat, la meilleure fin, Constance, est attribuée à
Albert Desgardins, qui nous a écrit de La Réunion.
Lisez-nous la fin.
Un horrible cri à l'accent chinois déchire l'écouteur. Je sais pas comment on fait un cri avec l'accent chinois. Excusez mon accent. Il me fige d'effroi, sitôt suivi d'une injonction prononcée d'une voix glaçante. Vous recevrez cette phalange dans quelques instants. Nous sommes tout prêts. Suivez à la lettre nos instructions. Ou préparez-vous à vivre le débit, doigt après doigt, phrase après phrase, de l'amant. Je m'évanouis. Une sonnerie. On cogne à la porte.
Non, ça c'est pas dans la fin d'Albert qui nous a envoyé ça depuis l'île de la Réunion. C'est génial parce qu'Albert, il a ce coup de téléphone de l'amant qui téléphone à la narratrice et il part sur une espèce de thriller absolument horrifique qu'on a trouvé génial. Alors l'honnêteté m'oblige à dire quand même que nous avons grandement hésité avec une autre fin signée Héloïse de Lugrin. Une fin beaucoup plus douce, beaucoup plus éthérée qui se termine par « Au revoir, amour ». La bataille a été âpre entre Albert et Héloïse et ils ont gagné un petit peu tous les deux quand même. Allez, on termine par nos pierres précieuses, nos rubis sur l'ongle, j'ai nommé les libraires. Chaque dimanche, en partenariat avec la revue Page des libraires, disponible en librairie, nous demandons à un libraire quelle est la question la plus farfelue entendu dans sa boutique. Et cette semaine, c'est Guillaume Chevalier de la librairie Mot à Mot, située à Fontenay-sous-Bois. Et comme en écho à sa ville, Guillaume Chevalier, il aime porter des chemises fleuries. Oui, je le sais car je le connais un petit peu. Bonjour Guillaume.
Bonjour Clara, bonjour tout le monde.
Alors, quelle est la question, Guillaume, la plus farfelue entendue dans votre boutique ?
Eh bien, figurez-vous, on était en fin d'après-midi et un monsieur d'un certain âge arrive dans la librairie, se dirige vers la caisse où je me trouvais et me demande droit dans les yeux « Est-ce que vous vendez des masques en cuir ?»
Alors, il s'est trompé de boutique, non ?
Alors oui, ben, on dirait bien, hein, et c'est d'ailleurs la question que je me pose depuis, en fait, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'indice qui pouvait le mettre sur la piste. La librairie ne s'appelle pas le donjon, il n'y a pas de menottes en spring, vous voyez, quoi. Donc je me demande depuis ce qui s'est passé. Il est parti sans demander son reste, hein, d'ailleurs. Mais j'espère qu'il a trouvé le bonheur, en tout cas, là où ce qu'il cherchait.
Ou alors il avait peut-être trop lu, vous savez, 50 nuances de Grey, le livre un peu érotique, à base de petits foulards en dentelle, de fouets en plumes d'autruche, c'est tout ça. On ne sait jamais.
Il dit qu'en en librairie, on pouvait trouver des goodies de 50 nuances de Grey, ouais, peut-être.
C'est ça. Variante, je vous signale que c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui a confondu les livres et l'érotisme, et au fond, c'est cohérent. Bon, je suis seule.
Oui.
Je suis seule à ça en dit long sur mes fantasmes. Hein. Vous aurez tous noté, comme ça, je suis bien à poil côté intimité. Merci Guillaume Chevalier pour cette intervention. Eh ben ça y est, nous pouvons solder les comptes. Tout est remboursé, amis auditeurs. Vous êtes propriétaire de Livre et Châtiment. Merci à Marc Duguin d'avoir été avec nous. Votre Merci. Film Eugénie Grandet est en salle depuis le 29 septembre et courez-y parce que c'est magnifique. Votre roman La Volonté chez Gallimard est en librairie. Lisez-le. C'est magnifique aussi. Merci Constance, Liliane Roudière, Elodie Emery. Merci à la réalisatrice Stéphanie Texier, à la chargée de programme Fanny Leroy, au technicien Julien Dumont. Bonne semaine. N'oubliez pas de lire, bien sûr, avec amour et sans pitié. À dimanche. On vous embrasse.